Point de vue avec Gérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.
Bonjour à toutes et à tous. Après un intérim fort réussi de mon collègue Jonas Ruffieux, me voilà de retour aux affaires. Je suis François Rossier, accompagné aujourd'hui de Pierre Chouvet pour ce podcast. Salut Pierre.
Salut François, welcome back.
Merci, ça a été avec ce petit jeûne.
Magnifique, magnifique, jeûne prometteur.
Jeune prometteur. On vous avait annoncé Tristan Chervet pour cette semaine. Il y a toutefois eu un petit contretemps. On ira voir le fribourgeois du CP Berne dans 3 semaines normalement. Mais on ne vous abandonne pas, on a trouvé mieux qu'une solution de secours, un homme que nous avions mis sur notre liste des invités avant même le début de la saison, Pat Aymon. Salut Pat.
Salut.
Bienvenue. Pourquoi cette envie d'inviter le nouvel entraîneur assistant de Fribourg-Gotteron? Eh bien parce qu'avec Chris Di Domenico, il a été sans doute la recrue phare des Dragons à l'intersaison. Pat est souvent mentionné d'ailleurs par Christian Dubé et les joueurs pour expliquer le bon début de saison de Gotteron. On va essayer de comprendre ce qu'il a changé, ce qu'il a modifié à Gotteron pour donner une telle énergie aux Dragons ces dernières semaines. Mais avant cela, place à l'actu avec l'annonce il y a quelques heures de l'arrivée de Yannick Radgeb, un sacré coup réalisé par Christian Dubé, Pierre.
En effet, c'est un des joueurs, un des défenseurs suisses qui peut avoir de l'impact. C'était un des gros poissons qui restait sur le marché. Je pense que quand on met Yannick Radgeb sous contrat, on sait qu'on a un défenseur droitier capable de mettre une trentaine de points, capable de marquer des gros buts sur powerplay. Alors il a ses qualités, il a aussi ses défauts. On les connaît, on les a vus lors de son premier passage à Fribourg. Mais je crois que c'est ce qu'il fallait à ce Gotteron-là. En fait, c'était de peut-être gagner en qualité, en défense aussi, en qualité de première relance. Donc c'est un joueur qui va dynamiser le secteur défensif aussi avec son gros caractère, comme on a pu le voir les saisons précédentes avec Chris Di Domenico qui deviendra son
coéquipier. Retrouvailles, ouais.
Les retrouvailles promettent. Je l'ai eu au téléphone juste avant Yannick Radgeb, évidemment pour l'article qui paraîtra vendredi. Puis il disait que voilà, vu qu'ils seront coéquipiers à l'avenir, ils risquent de plus battre. Donc ça part déjà du bon pied.
Une bonne nouvelle, Pat, t'auras pas besoin d'intervenir.
Bon, c'est sûr que c'est, du côté de Radgeb, là, c'est une excellente acquisition. C'est un joueur de âgé de 28 ans, donc qui rentre dans ses bonnes années en tant que défenseur. Donc c'est un joueur d'expérience, qui connaît bien la ligue. Très bon en offensive, bon en défensive. Le fait qu'il soit droitier également, cette année, on a quand même 8 défenseurs, on a seulement 2 droitiers. Je pense que ça a un impact, le fait d'avoir des défenseurs qui jouent de leur côté. Les gens ne peuvent pas réaliser des fois là, que tout est plus facile quand tu joues avec un droitier gaucher, que ce soit sur les sorties de zone et même surtout aussi le en zone offensive, quand les défenseurs sont sur la ligne bleue puis peuvent s'échanger le puck sur la ligne bleue en zone offensive, ça facilite beaucoup la chose. Et puis je pense que Yannick en plus amène un côté robuste, c'est un défenseur qui a beaucoup de caractère, donc ça dans une équipe on n'en a jamais assez. Des joueurs qui sont capables de s'impliquer physiquement et puis qui, quand même, si le jeu devient un peu plus rude après Noël ou durant les playoffs, donc c'est un joueur qui est capable de s'imposer constamment. Donc c'est une très bonne acquisition pour nous.
C'est un joueur qu'on a vu évoluer avec les années. Est-ce que tu as aussi l'impression que le Yannick Radgeb de 2023 n'a peut-être plus grand chose à voir avec le Yannick Radgeb de ses débuts? Il faisait beaucoup de bourdes, on entend des passes très risquées. J'imagine que tu l'as aussi observé peut-être mardi. Tu trouves que c'est un défenseur équilibré?
Bien, c'est sûr que c'est quand on parle toujours des défenseurs quand ils rentrent dans la ligue là, à 19, 20, 21 ans, c'est toujours difficile au niveau des jeunes défenseurs de bien s'imposer défensivement, puis d'atteindre une certaine régularité dans la dans leur jeu. Donc lui, il a fait comme les autres. Donc il a fait ses erreurs quand il était jeune. Donc maintenant il a pris en maturité. Ça veut pas dire qu'il fera pas d'erreurs en défensive, mais il va en faire beaucoup moins. Donc c'est un joueur qui est beaucoup plus stable au niveau de sa défensive, au niveau de son offensive. Ça, il y a pas de secret, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est un défenseur qui peut amener de façon régulière, année après année, 25-30 points. Donc, c'est pas négligeable pour un défenseur suisse.
Il va falloir créer un troisième bloc de power play pour lui, à la ligne bleue.
Ça, on appelle ça un euro-problème.
Effectivement. Mais vous, j'imagine que vous avez déjà un petit peu discuté de quelles seraient les possibilités à l'avenir de où le mettre. Tu l'imaginerais où?
Pas vraiment. Là, je pense que ça, c'est des discussions qu'on aura l'année prochaine, au mois d'août, au mois de septembre. Pour l'instant, là, il n'est pas dans l'équipe. Donc, on a bien d'autres choses à s'occuper.
Tu as quand même soulevé un point qui interpelle un peu, c'est le côté droitier de Radgeb. Alors effectivement, il n'y en a que deux, mais il y a un gaucher qui joue toujours à droite, c'est Gunderson. Oui. Et lui, voilà, il arrive en fin de contrat, mais Christian Dubé laissait entendre qu'en tout cas, il était éventuellement intéressé à prolonger Gunderson. Je ne sais pas, toi qui as eu Dubé, peut-être c'est une possibilité. En tout cas, ça risque de faire embouteillage, ou ça pourrait faire embouteillage.
Alors il a répété que l'avenir de Gunderson était plutôt lié à celui de Berra. Si Berra venait à ne pas prolonger, on partirait sur un gardien étranger, ce qui coûterait la sixième place, la dernière place de libre pour un étranger à Gunderson. Mais si le dénouement est positif avec Berra, ce qui semble assez bien parti, on en reparlera certainement après. À ce moment-là, Gunderson serait une option possible, une option vraiment, j'ai l'impression, l'option même prioritaire. Donc là, on aurait effectivement peut-être trois droitiers naturels plus Gunderson qui joue à droite, qui n'aime pas trop jouer à gauche, pour en avoir déjà parlé avec lui. Donc on se retrouverait presque avec un déséquilibre de l'autre côté pour la saison prochaine, où il faudrait peut-être remettre Gunderson à gauche, ou alors changer un droitier de position.
Encore là, ça c'est toutes des décisions qui se prendront dans la... On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec Reto également, avec Gundy. Donc, c'est toutes des décisions qui se prendront dans le futur.
C'est quand même un défenseur, évidemment, de talent qui va prendre de la place, du temps de jeu. Ça va, par effet domino, peut-être repousser certains défenseurs plus loin dans l'alignement. Et on pense aussi à Maximilian Streule qui fait gentiment sa place, qui essaye de faire sa place dans cet effectif. Est-ce que c'est ce genre de joueur qui va faire les frais de l'arrivée de Radgeb si Gauthieron continue avec deux défenseurs étrangers?
Comme je te dis, c'est des Yannick sera avec nous que l'année prochaine. Donc pour cette année, tous les défenseurs qui sont là pour gagner leur place à tous les matchs, premièrement durant cette saison. Pour Max, lui, c'est de prendre son expérience et de faire ses bonnes choses, de faire ses erreurs, d'apprendre de ses erreurs, de continuer à s'améliorer, à travailler fort. Et puis, quand il arrivera l'année prochaine, ça ne veut pas dire que ça sera lui automatiquement qui en paiera les frais. Tous les défenseurs seront réévalués à ce moment-là et puis ça sera les meilleurs qui joueront.
Est-ce que tu vois déjà une évolution chez Maximilian Streule dans son jeu depuis maintenant son arrivée à Fribourg?
Bon, c'est sûr qu'il y a une certaine amélioration. Ça reste toujours au niveau des jeunes joueurs, que ce soit un défenseur ou un joueur d'avant, c'est d'aller chercher une régularité. C'est ça que les entraîneurs aiment. Quand un joueur a trop de haut et de bas, puis on n'est pas qui est pas stable, c'est là que les entraîneurs aiment moins ça. Donc lui, son but dans le fond, c'est d'aller chercher le plus de temps de jeu possible, prendre confiance, puis essayer de maintenir une régularité le plus longtemps possible. Donc, c'est un processus pour un jeune défenseur qui est quand même assez long, mais jusqu'à maintenant, on voit des belles choses de Max. C'est son côté malgré la suspension qu'il y a eu en début d'année, c'est que Christian, il y a eu une bonne discussion avec lui. On voulait pas qu'il perde cet aspect-là de son jeu parce que ça fait partie de ses qualités. Donc, je pense qu'il l'a bien compris. Il fait plus attention, mais il reste que l'agressivité, cette bonne agressivité-là de son côté de jeu physique, il doit le conserver parce que ça fait partie de ses acquis. Donc, c'est des choses qui doit travailler encore. Mais au niveau de son jeu, la première passe, ça s'en vient. Il y a des matchs des fois un peu plus difficiles. Il y a des matchs que ça va mieux, mais ça, c'est normal. Ça fait partie de l'apprentissage.
J'aime bien parler un peu du futur, Patin un peu moins à ce que je vois, donc je me tourne vers Pierre. Mais est-ce qu'il y aurait l'option d'engager un attaquant étranger en disant Radgeb remplace numériquement Gunderson et dans le rôle de défenseur offensif et...
On pourrait se dire que oui, mais je crois que c'est pas la tendance. Christian Dubé l'a dit avant, il voit d'un bon œil cette option, enfin de continuer en fait avec deux défenseurs étrangers. C'est a priori ce qui va arriver, et puis on peut le comprendre et évidemment aussi l'entendre, c'est que si Radgeb arrive mais Gunderson part, je suis pas sûr que défensivement Gauthieron soit meilleur, alors que si on ajoute Radgeb et qu'on garde un deuxième défenseur étranger, ben là il y a quand même un vrai upgrade dans la défense. Donc ça me paraît logique en fait de continuer avec deux défenseurs étrangers. Je sais pas si Pat, t'as envie de te mouiller un petit peu là-dessus ou...
Je vais me mouiller, mais pas trop. Mais c'est sûr que t'as un bon commentaire. T'amènes un bon point. Donc, je vais te laisser le bénéfice du doute.
Il y a beaucoup d'équipes qui ont deux étrangers maintenant quand même derrière.
Oui, il y a beaucoup d'équipes. Je pense que c'est bien de stabiliser la défensive. Quand t'as une bonne défensive, c'est toujours plus facile d'améliorer ton offensive parce que tout part de ta défensive. Si le puck sort rapidement de ta zone, t'es toujours mieux positionné pour aller en attaque. Donc, t'es plus efficace au niveau de ton attaque. Donc, quand tu as une bonne défensive qui est capable de jouer sur les deux côtés, qui appuie son offensive, je pense que c'est une bonne chose.
Puis on l'a vu avec la blessure de Souter aussi. Gauthieron se retrouve vite limité au niveau de la profondeur défensive. Cette troisième paire, on avait Dufner, Streulet, Seiler qui tournaient un petit peu les trois. Ils n'apportent pas forcément la même sérénité que les deux premières. Là, si on réfléchit aux lignes, on peut avoir du Gunderson, Radgeb, du Diaz Borgman, du Yeker, Souter. Alors peut-être que ce ne sera pas du tout ça et que Yeker va garder sa place et qu'on équilibrera autrement. Mais ça permet d'imaginer Gauthieron peut-être sur le papier en tout cas être plus proche d'une équipe comme Zurich ou Genève qui ont pour le coup beaucoup de profondeur en défense.
On n'a pas parlé de la durée du contrat, souvent ça fait débat là, cette fois-ci il n'y a pas de discussion, c'est une bonne option d'avoir signé 5 ans Radgeb, il est dans la force de l'âge on le disait, donc autant s'attacher à ses services sur une longue période.
Bien, c'est sûr, il faut faire ses recherches quand on veut signer un joueur sur un long contrat. Il y a toujours l'aspect des blessures. Est-ce que dans ses antécédents, il a été blessé souvent ou c'est pas le cas du côté de Radgeb? C'est un joueur qui a un bon physique, donc l'aspect de l'âge aussi. Il y en a que c'est comme Gundy, il a 38 ans, mais il joue.
Comme s'il en avait 28.
Il y a le corps d'un jeune homme. Tu as des joueurs qui arrivent en début trentaine puis sont abîmés. Leur corps est fatigué. Donc, il faut toujours tenir compte de ça. Puis dans le cas de Yannick, je pense pas que ce soit un problème. C'est un joueur qui a une bonne éthique de travail, une bonne hygiène de vie. 28 ans, ça veut dire que ça va l'amener à 33 ans. Donc, il est encore jeune. Donc, c'est pas dans son cas, là, c'est pas un problème de le signer. Au contraire, quand tu as la chance de signer un joueur de cette trempe-là, ben, tu le fais pour une longue durée.
Quand Diaz avait signé pour 4 ans et qu'il avait 35 ans, là forcément, il y avait des questions légitimes à se poser. Là, c'est vrai que c'est différent, comme tu le dis. Ouais. Il aura 33, 34 à la fin de son contrat, donc ça reste encore un âge correct.
On fait un dernier petit point sur les autres dossiers de Gauthieron. On a parlé rapidement de Béra. Les supporters fribourgeois peuvent être relativement confiants.
qui vivra verra.
Je voulais la faire depuis longtemps, celle-là. Tu l'as déjà faite,
je crois.
J'ai
déjà écrite. Hein. Ouais. T'as fait tirer les oreilles, d'ailleurs, si je me rappelle bien. Alors voilà, les négociations de ce conseil sont en train de continuer avec Béra. Il a reçu une offre qu'il est en train d'étudier. Donc il a reçu une offre de Fribourg, certainement aussi une de Kloten. Après d'autres, je ne sais pas. On peut imaginer que le transfert, l'arrivée de Radgab va le motiver à rester, parce que ça montre que Gauthieron continue de grandir, va dans la bonne direction. Je crois que Reto Béra est très gourmand de ce qu'on entend et de ce qu'on sait aussi. C'était déjà le cas la dernière fois. Donc maintenant, il faut s'entendre. Lui aimerait probablement 3 ans. Le club préférait lui donner 2 ans. Donc il faut trouver un entre-deux. 2 ans plus une option. Ou alors 2 ans un peu mieux payé, je ne sais pas. Pat, tu as des infos?
Non, j'ai pas d'infos sur ce sujet-là.
Je me demandais d'ailleurs, plus sérieusement, est-ce que dans le cas d'un transfert de Yannick Radgab, le coaching staff on lui pose la question. Est-ce que Christian Dubé t'a demandé ce que tu pensais de Yannick Radgab? On t'inclut aux discussions?
C'est sûr que on connaît tous les joueurs, que ce soit David, Pavel, et puis c'est libre à Christian de s'informer, d'avoir nos avis. Je pense que ça, c'est quelque chose de normal. Donc dans le cas de Radgab, je pense que tout le monde était au niveau du coaching staff, tout le monde était sur la même longueur d'onde. Il n'y avait pas d'hésitation dans son cas. Là.
Et puis de manière générale sur les transferts, on ne va pas s'arrêter sur des cas, mais à quel point ça influence la vie du vestiaire en cours de saison? On se dit, ben voilà, on parlait des défenseurs, ils se disent, ah, il y aura de la concurrence, alors c'est que l'année prochaine, mais peut-être ça leur trotte un peu dans la tête. Il y a Béra qui a un point d'interrogation au-dessus du casque depuis quelques semaines. Ça peut perturber le joueur peut-être, cette situation ambigu ou en tout cas d'attente. Est-ce que ça perturbe aussi la vie du vestiaire? Est-ce que les coachs doivent parler un peu de cette situation? Justement, vous ne parlez pas du tout de ça pour éviter de perturber le groupe.
Bon, ça, d'après moi, c'est du cas par cas. Là. Je pense que là, ça, c'est plus le dossier à Christian de sa façon de gérer ça. S'il y a des joueurs qui sont insécures, la porte à Christian est toujours ouverte. Et puis ils peuvent aller discuter pour savoir qu'est-ce qu'il y en a et puis tout ça. Je pense que s'il y a des discussions à avoir, c'est soit Christian qui va le faire ou le joueur lui-même va frapper à la porte puis il va poser les questions pour rester de... C'est toujours des discussions qui sont franches et puis honnêtes entre les joueurs, puis le directeur gérant et l'entraîneur. Donc, normalement, ça se passe bien.
Ils viennent aussi frapper à ta porte des fois un peu pour ce rôle de confident qu'on donne volontiers à l'assistant, aux assistants.
Bon, les joueurs sont... les entraîneurs, les assistants-entraîneurs sont toujours un peu plus accessibles que l'entraîneur-chef. Moi, j'ai été toujours entraîneur-chef, donc je connais un peu le tabac, comme on dit, qu'il y avait des joueurs qui étaient plus portés à aller voir les assistants. C'est la même chose. Les joueurs viennent me voir, ça se fait à l'occasion. C'est dans la normalité, on va dire, dans chaque équipe, c'est comme ça se passe.
Oh, on méritait de s'arrêter longuement sur cette première partie et cette arrivée de Yannick Radgab. On a encore 2 sujets d'actualité qu'on va évoquer. Le premier, c'est le directeur sportif. On en a souvent parlé dans ce podcast, mais ça a bougé un peu cette semaine avec le début des entretiens.
Je vais te passer la parole, parce que c'est toi qui as le dossier en main, François.
C'est vrai, c'est moi qui ai le dossier en main, je ne sais pas, c'est un grand nom. Mais oui, effectivement, on a appris cette semaine que les entretiens avaient commencé avec Gerd Sennhäuser mardi après-midi, c'était avant le match de Bienne, donc il fait partie des finalistes, on peut dire, sans surprise, puisque... Ah. Il était candidat avant même que le poste soit mis au concours, on peut dire.
Effectivement. J'en ai parlé aussi avec Christian juste avant, en lui demandant si Gerd était son candidat de préféré. Et évidemment, il aimerait bien que Gerd continue, ce qu'on peut comprendre. Ils sont proches, ils travaillent ensemble depuis longtemps. Et puis si Gerd reste, ben, pour Christian, il le disait lui-même, hein, mais c'est un gage de stabilité. Il sait que c'est pas un Canadien qui connaît pas le championnat qui va arriver, qui va vouloir prendre son entraîneur dès que le contrat de Dubé sera fini. Alors ça sera probablement pas le cas, je crois pas que Fribourg va aller prendre un illustre inconnu, mais disons qu'il y a cet aspect-là avec Gerd qui lui plaît beaucoup, Et les résultats actuels, ben, penchent plutôt en la faveur de Geert Sten Heusen, parce qu'il fait quand même partie du groupe des directeurs de la direction sportive. Et puis, ben, on peut imaginer que le club envisage d'aller un petit peu, de faire dans la continuité à ce poste-là. Après, voilà, ce serait peut-être étrange si finalement ils choisissent Geert d'avoir fait tout ça, d'avoir fait autant d'entretiens, d'avoir laissé traîner le suspense, d'avoir ouvert un appel aux candidatures pour finalement continuer avec une personne qui était là. Il aurait suffi de lui dire: Geert, est-ce que tu veux le poste? Oui, je le veux. Ok, c'est parti. Donc,
mais on voit ça justement dans le sport, ça va quand même très vite, parce qu'au printemps dernier, même Christian disait: ah, je réfléchis, peut-être que ce poste n'est plus fait pour moi et j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me remettre les idées en place. Tout était un peu remis en question après cette élimination contre Lugano. On met en place un appel d'offres et puis on avance sur un dossier, et puis quelques mois plus tard la situation est complètement renversée. On se dit: ah ben, finalement ça va quand même bien avec ce duo, avec ce groupe, avec ces hommes-là, et puis Gauthieron fait du bon travail.
C'est la question, ça.
Ouais, ça va vite, là. Okay.
C'est vrai que c'est un monde qui est toujours en mouvement, puis ça va très vite. Écoute, au niveau de cette décision-là, je pense que ça revient au club de prendre la meilleure décision possible pour que le club justement continue à avancer. C'est sûr que le mot, t'as dit le mot stabilité. Le mot stabilité, c'est vrai que c'est quelque chose d'important, surtout quand tu pour un poste comme ça, quand tu vas quand t'approches des joueurs au fil des ans, et puis une organisation qui est saine, c'est une organisation qui a peu de changements, pas qu'il n'y a pas de changements, mais qui a peu de changements, ou c'est des changements, ça peut arriver selon les périodes, mais c'est sûr que quand tu as une bonne stabilité, tu as une organisation qui est sérieuse, c'est toujours plus facile d'attirer des joueurs de qualité dans ton équipe. Donc, c'est d'avoir un bon plan d'action, plan d'action au niveau de l'équipe en général, et puis quand tu approches des joueurs, d'avoir un plan sportif également bien établi pour le joueur en question, qui veut, lui, changer d'équipe. Il veut savoir un peu dans quoi qu'il s'embarque. Et puis, est-ce que les objectifs de l'équipe correspondent à ses objectifs personnels? Je pense que c'est le travail d'un directeur-gérant là, qui veut améliorer de jour en jour, d'année en année, son équipe.
Après, garder, ça voudrait dire finalement permettre encore à Christian Dubé d'avoir, j'imagine, un petit peu son mot à dire dans les transferts. Ça serait totalement différent si c'est quelqu'un d'autre qui arrive.
Mais ça, c'est quand même le côté un peu mystérieux de la relation directeur sportif-entraîneur. Toi, tu as connu pas mal de directeurs sportifs. À quel point il fait contrepoids, ou à quel point il travaille main dans la main? Parce qu'on se dit, des fois, on a l'impression que ça doit être un ennemi du coach, qui doit le contrôler, qu'il est au-dessus de lui. Puis en même temps, s'il fait venir un joueur que le coach veut pas, il n'y a aucun intérêt. Donc, ils doivent bien s'entendre, mais sont pas forcément les meilleurs amis du monde, un coach et un directeur.
Moi, je pense que la relation entre le directeur gérant et l'entraîneur doivent être bonnes. C'est sûr que si ils s'entendent pas sur le choix des joueurs, ça met beaucoup de pression au niveau de l'entraîneur, qui est pas vraiment nécessaire quand tu veux monter ton équipe. Donc quand la relation est bonne, c'est encore mieux. Qu'il y ait des différends sur le choix des joueurs, ça peut arriver. Chacun son boulot. Il y en a un qui est entraîneur, l'autre est directeur sportif. Mais au moins qu'il y ait une ligne de entre les deux qui fait qu'ils ont le même pattern au niveau du type de joueur qu'ils veulent aller chercher, que le nom soit un peu différent, mais au moins, si on cherche des joueurs rapides avec du caractère, avec des skills, c'est qu'on ait quand même une ligne qui est quand même assez la même. Ensuite de ça, ça reste des relations interpersonnelles entre le directeur technique et puis l'entraîneur. Mais c'est sûr que plus la cohésion entre les deux est bonne, mieux que c'est. Si l'entraîneur prend une décision et puis il n'y a pas l'appui non plus de son directeur technique, ben là, c'est difficile pour l'entraîneur de faire son boulot. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine cohésion entre les deux.
Concrètement, quand tu étais head coach à Genève, comment ça se passait ta relation avec ton directeur technique qui était déjà Gauchi?
Non, les premières années, c'était Chris qui était là.
Ah ouais, donc d'autant plus savoureux à savoir comment ça se passait avec l'ancien patron de la maison.
Bon, je peux pas vraiment parler de mon séjour à Genève. Je pense pas que c'est vu la discussion aujourd'hui, mais disons que avec Chris, la relation était très bonne, très cordiale.
D'accord. Donc la suite du dossier directeur sportif, il semblerait que Gauthieron ait retenu 3 candidats pour l'instant, mais pas fermé la porte à certains autres. Un premier tour d'entretien, nous a dit Hubert Weber, et puis après, où un candidat se dégage déjà et ils font leur choix, ou bien peut-être qu'il y aura une sorte de deuxième tour, un deuxième entretien dans le courant du mois de décembre. Et l'idée est toujours d'annoncer le successeur de Christian Dubé au mois de janvier.
Serge Pelletier, François, des nouvelles?
Serge Pelletier, pour l'instant, c'est silence radio, il ne veut pas trop communiquer sur le sujet. Voilà, donc on verra si... fait partie ou non du groupe et des candidats, mais le seul qu'on sait, c'est pour l'instant Gerd Senezorn. Et puis l'actu, on va quand même parler de Gauthieron, de l'équipe. Il y a eu ce match à Bienne qui était sans doute pas le meilleur de la saison. Comment tu l'analyses, Pat? C'était dur quand même mardi.
Oui, c'était carrément une contre-performance. Je pense qu'on ne se le cachera pas. Là. Tout le monde, après le match, était un peu choqué, même les joueurs. Personne n'était content après la performance de mardi. Surtout après le début de saison qu'on a connu. On peut avoir des soirées un peu plus difficiles, mais là c'est vraiment, là, on a comme frappé un mur. Là. On voyait depuis 4-5 matchs que c'était moins un peu moins d'énergie, puis tout ça, mais c'est pas des excuses qu'on doit donner. Je pense qu'on était sur une série de victorieuses, et puis je pense que ça a commencé là, avec le match contre Lugano. Ça a commencé... On arrivait moins à jouer des matchs de 60 minutes. En Brie, on a joué un bon match, mais le premier tiers, on n'était pas là du tout. On a joué un bon 40 dernières minutes. Après ça, Genève, encore là, ça n'a pas été un match de 60 minutes. On était très opportunistes. On s'en est sorti avec la victoire. Je dirais, dans les 5 derniers matchs, le match de Zurich a quand même été un match où on a joué. Mais là, on a vu un Zurich qui était quasi parfait. Puis nous on pour gagner, il aurait fallu être parfait pour gagner ce match-là. C'était un match d'une très grande qualité, mais c'est un match qui était quand même satisfaisant pour nous. Et puis, là, on a frappé le mur mardi. C'est peut-être une bonne chose qui arrive maintenant, de réaliser des choses. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu un bon entraînement. Demain, on va avoir des séances vidéo où on va se regarder un petit peu dans le miroir, puis qu'est-ce qu'on faisait bien v'là 3 semaines et qu'est-ce qu'on fait moins bien aujourd'hui. Essayer de comparer, faire comprendre aux joueurs que des fois c'est des détails, des fois ça, on s'en rend pas compte, puis on fait les choses moins bien, on le fait pas dans on est moins dans le système qu'on était v'là 3 semaines. Et puis il y a le côté intensité aussi que là, mais là c'est la responsabilité des joueurs, je veux dire, c'est des joueurs pros, donc ils doivent se présenter à tous les soirs. Faire des erreurs, c'est une chose, mais d'être moins intense, ça c'est vraiment leur responsabilité personnelle. Et puis mardi, on a vu un peu de tout ça.
Mais est-ce que, à ton avis, c'est normal de passer par un cycle comme celui-ci après un début de saison aussi exceptionnel que celui que vous avez connu?
Je te dirais que c'est humain. J'aime pas le mot normal, parce que quand on dit normal, c'est comme si on dirait que c'est moins grave, parce que c'est normal que ça arrive. Je te dirais que plus que c'est humain, dans le sens où quand on a des beaux, on est au haut de la montagne, inconsciemment on a des relâchements puis tout ça. Mais je veux pas appeler ça une normalité ou des excuses par rapport à ça. Tout le monde doit se donner une chance. on sait qu'on ne gagnera pas tous les matchs, mais on doit se donner une chance à tous les soirs d'être capable de au moins essayer de gagner le match. Et mardi, ce n'était pas le cas, tout simplement.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme de, alors c'est ce dont on parle quand même, mais de relâchement peut-être plus mental que physique, de se dire, ben voilà, on a bien réussi le début de saison, il y a la pause qui arrive, il nous reste deux petits matchs avant d'avoir quelques jours un peu off, et puis que voilà, il y a un peu moins de concentration, un peu moins d'implication. Ouais. Peut-être l'effort qu'on faisait avant, on le fait plus forcément ou
oui,
moins.
T'as raison, c'est ça. Mais comme c'est pas arrivé du jour au lendemain, là. Il y a un processus pour en arriver là. Comme j'ai dit, là, ça faisait 4-5 matchs que même si on ramassait des points, on voyait qu'on était moins focus sur le travail, sur l'exécution qu'on avait à faire. Chaque joueur a un rôle à jouer, mais là, tout le monde était un petit peu moins attentif à ce qu'il devait faire. Et puis, c'est ça qui est arrivé mardi. Là, on a frappé le mur. Donc, c'est important là, dans ces... oui, on le sait que ça va arriver. On espère que ça arrive le moins souvent possible. Et il faut pas que ça arrive sur une longue période. Donc, déjà, samedi, il faut voir la réaction. Il faut que, dès le début de match, dès l'entrée de jeu, on voit le vrai Fribourg-Gotteron qu'on a vu là, le mois passé.
Au final, tout ce qui marchait très, très bien en début de saison, c'est-à-dire un gardien qui était chaque soir à 94% d'arrêt ou plus, une efficacité aussi devant les buts qui était hors norme. Maintenant, c'est un tout petit peu l'inverse. Les gardiens, je crois que sur la séquence de 5 matchs, 6 points qui vient de se terminer, ils sont en dessous de 90%, l'efficacité aussi est descendue, donc voilà, il y a un petit peu un retour de manivelle après avoir eu beaucoup beaucoup de réussite. Ben voilà, ça une compensation un petit peu logique aussi sur la longueur. On voit que Gotteron tire assez peu cette saison, en tout cas vu les chiffres officiels, c'était le cas à Bienne, 19 tirs seulement. Est-ce que vous avez insisté là-dessus qu'il faut plus tirer?
Non, pour le match de mardi, je voulais avoir au moins 10 tirs par la partière, au moins plus de 30 tirs pour le match. Donc tu vois comment on a passé à côté. Non, c'est vrai qu'on tire peu, on est dans l'entour de 26-27 tirs. Il y a des équipes qui tirent beaucoup plus. Mais c'est sûr, j'aimerais qu'on soit plus aux alentours de 30-32 par match. Mais c'est surtout, il faut regarder aussi, des fois on a tendance à regarder le nombre de tirs, mais qu'est-ce qui est important, c'est de regarder la provenance du tir, la qualité du tir, et puis est-ce qu'il y a du... c'est souvent, nous, on a beaucoup de tirs, on a des tirs de l'enclave, ou on a des tirs des fois souvent des passes transversales avant d'avoir un tir, donc on fait bouger l'adversaire un peu plus, puis souvent, on a des joueurs qui sont positionnés devant le gardien. C'est ça qu'on fait. On essaie de faire attention dans le sens que des fois, on va jouer avec notre défenseur. Le défenseur est en position pour prendre un tir, mais il n'y a personne devant le but. On dit au défenseur de ne pas prendre le tir. Parce que si on tire de la ligne bleue, on ne marquera pas. C'est impossible. Mm-hmm. Tu peux marquer de la ligne bleue si tu as un joueur qui fait un écran sur le gardien. Donc, c'est des petites choses qu'on a changées. Donc, ça nous amène peut-être à avoir un 4-5 6 tirs de moins durant le match, mais on essaie de, quand on a le puck, de trouver la meilleure position possible, être un peu plus patient en zone offensive pour prendre des tirs de meilleure qualité, dû au fait qu'on a un peu moins de tirs que les années passées, mais c'est sûr que j'aimerais peut-être qu'on soit plus aux alentours de 30 que de 26.
Les statistiques confirment ce que tu nous dis là, puisque Gotteron l'année passée était une des équipes qui tirait le plus, et cette année il y a juste Ajoie qui tire moins que Gotteron. Il y a une meilleure sélection des tirs, c'est une des choses que tu as apporté à Gotteron. On sait que tu es en charge de l'attaque, des attaquants du système, tu demandes vraiment de choisir les tirs.
Mais au départ, c'était plus d'amener le mouvement entre les joueurs. Je voulais que les 5 joueurs en zone offensive soient impliqués, chacun a un rôle à jouer. Donc, puis avec je donne des options aux joueurs on entraîne les options aux entraînements, mais après ça, c'est pas que de faire ces options-là. Les joueurs ont des habiletés aussi. Donc, s'ils sont capables, Sorensen avec Walmart, sont capables de créer quelque chose par eux-mêmes, de sortir du coin à 2 contre 2. Je les empêcherai pas de faire ça, au contraire. Mais je veux qu'on la zone offensive, c'est leur terrain de jeu. Mais je leur mets certaines règles qui doivent rester dans ces règles-là. Puis après ça, mais ils peuvent créer à l'intérieur de ça. Fait que je veux pas voir les défenseurs patiner pour patiner n'importe où. Donc, les mouvements qu'ils font, normalement, c'est des mouvements qu'on entraîne. Des fois, c'est juste un mouvement pour créer une ouverture pour le porteur. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie d'implanter. Il y a Zurich également. C'est pas une équipe qui prend beaucoup de tirs, mais les tirs, c'est des tirs de qualité. Ils ont des joueurs pour créer, mais c'est les 5 joueurs qui sont ensemble. C'est pas un individu qui va nous faire gagner un certain soir. C'est l'ensemble des joueurs qui sont impliqués en zone offensive, qui essaient de créer quelque chose ensemble pour prendre des tirs de qualité avec du trafic devant le but, aller pour les rebonds et puis essayer de en début d'année, je sais pas si tu te rappelles, au mois d'août, durant les matchs amicaux, on rentrait en zone offensive, 3 secondes après, on était sorti. On n'en avait pas de cohésion. T'sais. Maintenant, on a un peu plus de cohésion. Des fois, on rentre en zone, on peut rester 15-20 secondes à tourner le puck puis essayer de trouver la meilleure façon de prendre une bonne action au but.
Mais est-ce que ça veut dire qu'un joueur, plus un joueur est talentueux, intelligent, malin, moins il tentera de tir aussi un peu alibi, donc il y aura peut-être aussi une conséquence sur le nombre de tirs d'une équipe. Tu disais avant l'exemple avec Zurich, Fribourg aussi qui a des joueurs quand même très, très talentueux.
Ben c'est ça, mais il faut trouver la ligne est mince entre être bien positionné pour tirer puis on tire pas, et parce qu'on veut faire un plus beau jeu. Tu sais, je veux pas qu'on aille là non plus. Là. C'est, quand il y a un joueur devant le but, t'es libre, t'es disponible pour prendre un bon tir, prends ton tir. Je cherche pas une autre solution. La meilleure solution, c'est de prendre un tir quand tu es bien positionné avec un joueur qui masque le gardien. Tu es dans cette position-là, peu importe où dans la zone, on veut des tirs vers la cage. Si tu es moins bien positionné, tu n'es pas sûr, on va essayer de trouver une autre solution. Donc, mais des fois, la ligne est mince entre les deux. Là.
J'ai eu l'impression sur le match de Bienne, tu me diras si je me trompe, mais que vous avez eu de la peine à rentrer en possession du puck dans la zone offensive. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? C'est une question d'intensité? C'est une question de peut-être
non,
ça, le mérite
ça, c'est une
bien
question, bien. Ça, c'est une bonne question, tu me la poses, parce que demain, on va passer la vidéo, on va en parler beaucoup. Ça, c'est du puck management. C'est dans le sens que quand le joueur est responsable, quand il est porteur du puck, de faire une action positive pour l'équipe. Parce qu'à chaque fois qu'il va faire un geste, il y a une conséquence qui arrive, soit positive ou négative. Si c'est négatif, ça veut dire que tu as donné le puck à l'adversaire, l'adversaire part de l'autre côté. Il y a une règle, c'est dans toutes les équipes, tu ne peux pas te perdre de puck à la ligne bleue, en la ligne bleue offensive. Donc, quand tu es joueur en offensive, tu as de la vitesse, puis tu as de l'espace, tu veux rentrer avec un Sorensen, par exemple, qui arrive, qui a beaucoup de vitesse, qui a de l'espace, s'il veut rentrer avec le puck, il n'y a pas de problème, il va réussir son action. Si par contre le défenseur est devant lui, il y a moins d'espace, il doit jouer derrière le défenseur. Qu'est-ce qu'on fait quand on a eu du succès? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait contre Bienne? Là, on voulait jouer avec le puck. Et au lieu d'accélérer à la ligne bleue, on ralentissait, puis on voulait garder le puck. On voulait jouer avec le puck. Mm-hmm. C'est pour ça que dans le match de mardi, je pense qu'on a au-delà de 15 revirements sur la ligne bleue, parce qu'on n'était pas dans notre système, parce qu'on n'était pas focus sur qu'est-ce que... C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à entrer en zone offensive. Bien souvent, c'est pas Bien qui jouait bien, c'est nous qui a complètement manqué notre match au niveau des entrées de zone, parce qu'on voulait transporter le plus puck plutôt que de jouer derrière l'adversaire. Qu'est-ce qu'on a fait? On joue derrière avec un bon forechecking, récupère le puck, joue avec nos défenseurs. C'est ça qu'on n'a pas fait contre Vienne. Puis c'est ça qu'il faudra faire samedi contre Langnau.
On ouvrira l'œil pour voir si effectivement il y a une amélioration.
Mm-hmm. Est-ce que tu sens quand même, t'es surpris comme ce que t'as amené à l'équipe, ça s'est vite mis en place et ça a été efficace? C'est basique, finalement, et les joueurs sont juste un peu mieux organisés, adhèrent au discours, et puis...
Tout le monde au niveau du staff essaie d'amener son point pour améliorer. On essaie de trouver les solutions pour améliorer l'équipe le plus possible. Comme j'ai dit, en début d'année, ça c'est quand même long à implanter. C'est au mois d'août, là. Il y a des fois qu'on n'arrivait pas, les matchs amicaux. Puis ça a pris un certain temps. Puis les joueurs, quand le font bien, moi j'ai toujours pour m'en dire que il n'y a pas de bon ou de mauvais, de bonne ou de mauvaise façon de jouer. Il n'y a pas bon ou mauvais système de jeu. Donc, le meilleur système de jeu, c'est quand les 20 joueurs le font. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est d'essayer de trouver c'est quoi les qualités de notre équipe. On est une équipe qui est rapide. On est une équipe techniquement en offensive où on peut amener des choses. Donc, on va se servir de nos forces et puis on va exploiter nos forces. Donc, c'est de trouver la meilleure chimie pour que les joueurs soient à l'aise et puis aient du plaisir à jouer dans cette façon-là.
Gérama vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier. Gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Confiance et transparence, nous sommes le partenaire que vous recherchez. Retrouvez toutes nos offres sur gerama.ch.
On avait promis de parler un peu de toi. On a beaucoup parlé de Gauthieron et de ce début de saison. Pat, les gens te connaissent peu, mais tout le monde a compris avec ton accent que tu venais du Québec. Donc, parle-nous un peu de tes premiers coups de patin au Québec, ton enfance, ta jeunesse, comment ça?
Oh, ma jeunesse, j'ai commencé très jeune, à 4 ans, là, je jouais déjà, quand je commençais à patiner, et puis j'ai joué dans les petites ligues, là, moi, mini, Mosquito, et puis j'ai joué chez nous qu'on appelle le 2A, là, c'est comme le pour chaque catégorie, c'est l'élite, et puis j'ai évolué, là, jusqu'à midget 3, ensuite junior majeur au Québec.
Des sacrées saisons, avec des points, pas à la pelle, mais au trax, quoi.
Bon, j'ai eu quand même un joueur offensif, donc puis j'ai
des
quand
saisons
même...
à 150 points, il me semble, de tête.
Moi, j'ai une saison de 100, presque 180 points. Ouais. Bon, c'était une époque différente. Et puis, par la suite, j'ai joué une année professionnelle à 20 ans en France à l'époque, en Ligue nationale, là-bas. J'ai pas aimé mon expérience. Et puis, quand je suis rentré, ben j'ai décidé de continuer à jouer au hockey, mais j'ai joué universitaire canadien. J'ai joué 4 ans là, j'étais champion canadien ma dernière année. Et puis, j'ai arrêté de jouer à 25, 26 ans, j'ai arrêté de jouer. J'ai commencé à être entraîneur à Lugano pendant 3 ans, 91 à 94. Ensuite, 95 à 2000, j'ai fait un premier séjour à Genève. Et puis, je suis retourné au Canada, j'ai laissé le hockey pendant près de 10 ans au niveau de comme entraîneur. Puis, Louis Matt m'a rappelé en 2010 pour revenir prendre les juniors élites à Genève. Moi, de mon côté, au niveau professionnel et personnel, je pense que j'avais j'étais dans une étape. Le timing était bon là, pour faire des changements. Donc, c'est pour ça que je suis revenu à Genève en 2010 avec les juniors élites. À partir de 2013, je faisais les juniors et puis la première également comme deuxième assistant. Et puis en 2019, j'ai pris la place à Chris avec la première équipe.
J'ai plein de questions.
Bah, c'est bien, c'est déjà un très bon résumé.
Ça, ouais, alors, ouais, c'était très complet. Merci pour le CV. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu flambes en Ligue Junior Major du Québec et ta signature en France? On peut imaginer qu'un joueur qui met autant de points trouve un club en NHL ou en AHL. Ouais.
Ben moi, à l'époque, j'étais repêché par Pittsburgh. Et puis, on avait une année pour signer le contrat quand j'avais 18 ans. Puis, c'était ma moins bonne année. C'était l'année de ma signature de contrat. C'est que l'équipe n'a pas décidé de me signer. Donc, je suis retourné au niveau des juniors. Là, j'ai eu des bonnes saisons par la suite. Mais à l'époque, c'est des joueurs invités à des camps d'entraînement ou... ça existait à peu près pas. Et si t'avais pas de contrat à 18 ans, ben t'étais déjà considéré trop vieux. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Ça a changé, ça a évolué. Et puis j'avais l'occasion d'aller dans la Ligue américaine, mais à l'époque encore là, c'était pas comme aujourd'hui. Les salaires étaient beaucoup moindres. Et puis je voyais pas de l'intérêt d'aller là parce que j'avais des offres pour aller en Europe. Ça, c'était ma première mauvaise décision, je veux dire, c'est de pas avoir été en ligne américaine, parce que tu vas pas jouer comme étranger à 20 ans. Un joueur va jouer étranger quand il a fait le tour du jardin en Amérique du Nord, puis il vient à 27-28 ans, il est plus mature également, donc il s'en vient ici. Tandis que moi, j'avais 20 ans, j'étais pas à ma place du tout. Donc c'est une décision que j'ai regrettée par la suite.
La France, donc, après, dans un deuxième temps, tu dis, ouais. Là, tu parles encore de l'Amérique du Nord ou
Non, quand je suis venu, quand j'étais allé en France.
Ouais.
Et puis j'ai décidé de retourner aux études. Et puis, je pouvais jouer dans une bonne équipe, aussi une bonne ligue, qui est la Ligue universitaire canadienne. Donc, j'ai beaucoup apprécié mon séjour là-bas. Et puis, par la suite, j'ai commencé à être entraîneur à Lugano pendant 3 ans.
Tu aurais pu faire carrière en NHL, tu penses, avec d'autres décisions, avec un meilleur timing?
Oh non, ça, je veux dire, j'irais pas juste là. J'avais le niveau pour jouer dans la Ligue américaine, ça c'est sûr. Mais après ça, on sait pas, on connaît pas l'avenir. Puis c'est jamais quelque chose que j'ai pas... j'ai regretté ma décision, mais par la suite, mon parcours, quand même, a pas été une ligne droite sur un grand boulevard asphalté. Je suis content de mon parcours.
Justement, comme on arrive à Lugano, il y a d'autres Québécois qui ont commencé leur carrière à Lugano, mais tu connaissais quelqu'un là-bas ou...
C'est Serge Pelletier était là, ouais, à l'époque. Il cherchait un entraîneur pour les... moi, j'ai commencé avec les novices, donc je suis allé coacher les novices à ce moment-là.
Tu le connaissais du Québec, donc Serge Pelletier.
Oui, on se connaissait du Québec.
Et à 25 ans, tu arrêtes ta carrière parce que t'en as marre ou c'est justement là...
Je m'étais rendu compte que j'étais passé à côté de quelque chose. Que à ce moment-là, j'aurais pu aller jouer en Europe par la suite. Mais j'ai joué en Ligue B. J'étais rendu en 98.
Oui, j'avais quelques petits matchs. 5 en 3 ans.
Les étrangers étaient blessés. Donc, j'avais joué. Ça faisait 6 ans que j'avais arrêté de jouer. Mais ouais. Il m'avait demandé
Les Vernets étaient déjà pareils.
Hein?
Les Vernets étaient déjà pareils.
Oui, à peu près. Ouais.
Donc après, tu as parlé de cette coupure de quoi, presque 10 ans sans hockey. Oui.
Qu'est-ce que tu
as fait pendant ces 10 ans?
Je me suis trouvé un autre emploi. J'ai commencé comme représentant d'une compagnie de transport à Québec. Et puis, j'étais superviseur aux ventes après 2 ans. Puis après, ma 3e année, j'étais directeur des opérations. Donc, c'est un domaine que j'ai beaucoup aimé. C'est un domaine qui est très différent. Donc, j'avais au-dessus de 50 chauffeurs à ma charge. Ça reste du management quand même. Donc, des fois, c'est important de, au niveau professionnel, quand tu es entraîneur de hockey, c'est beaucoup de la relation interpersonnelle avec ses joueurs. Donc là, c'est un domaine qui est complètement autre, mais c'est des problèmes qui sont différents aussi. C'est des gens qui ont des familles, qui ont ça. Les problèmes que j'avais à gérer, il y avait des problèmes d'alcoolisme, de toxicomanie. Donc, tu gères les gens, tu apprends à gérer les gens. Ça m'a beaucoup aidé quand je suis revenu. Donc, c'est des expériences que j'ai. Comment je m'adresse aux joueurs aussi, ben, si j'essaie de comprendre, je suis quelqu'un qui est très empathique, donc j'essaie de comprendre mes joueurs, d'avoir une certaine empathie par rapport à eux. Mais il reste que quand ils embarquent sur la glace, ils ont un boulot à faire. Donc, je suis capable de faire la distinction entre les deux. Donc, je pense que c'est des choses qui m'ont aidé à mon retour. Le fait aussi, l'autre chose qui m'a aidé, c'est le fait justement d'avoir arrêté pendant 10 ans. Donc, j'avais une façon d'entraîner qui était dans les années 90 qui est bien différente aujourd'hui. La relation avec les joueurs est bien différente aussi. Et les générations, les joueurs de génération en génération évoluent. C'est pas les mêmes. Les jeunes de 2020, c'est pas les mêmes que les jeunes de 1990. Donc, quand je suis arrivé ici, j'ai frappé un mur parce que moi, je coachais de mon expérience était là. Puis là, je me suis rendu compte que le message passait moins bien. Donc, j'ai dû changer ma façon de parler aux joueurs, changer ma façon de coacher. Donc, j'allais prendre de l'information sur différents entraîneurs, qu'ils soient canadiens, américains, suédois, finlandais. Donc, je m'imprégnais de tout ce que je voyais, puis je prenais ce qui faisait mon affaire. Donc, ça a beaucoup... je suis un entraîneur qui est âgé d'âge, mais qui est jeune dans sa façon de coacher.
Donc, sans l'appel de Serge Pelletier. Donc, Serge Pelletier, Lugano, c'est après tes 10 ans, tes 15
non,
ans.
Non, Lugano, c'est après mon université, ça va être 5 ans.
Oui, alors je mélange un petit peu. Mais quand t'es revenu...
C'est Louis Matt
qui t'a appelé.
Ouais.
Sans son appel, tu serais toujours, tu penses, à ton poste ou dans le milieu dans lequel t'es venu au Québec?
Probablement. Ouais. Probablement. C'était un gros changement dans ma vie. Non, je m'en cache pas. C'était un gros changement.
Parce que pendant ces 10 ans, c'était une coupure complète du hockey ou tu regardais beaucoup de matchs?
Tu jouais avec
des copains?
J'ai recommencé à jouer avec les copains. Et puis, j'ai fait ça pendant 4-5 ans. Mais quand j'ai pris de l'âge, j'ai pris du poids. Puis, j'arrivais plus à faire ce que je voulais faire. Donc, j'ai arrêté.
Parlons un peu de ces années genevoises et notamment, tu as longtemps peu connu des autres clubs et puis après il y a eu ces deux titres avec les juniors, les moins de 20 ans où on a commencé à entendre vraiment parler de toi. Ça me fait penser que je les ai pas oubliés, mais on a des auditeurs qui posent des questions et justement Julien Rohrer, il aimerait savoir les différences tactiques qu'il peut y avoir entre les juniors et les professionnels, justement toi qui as connu longtemps les juniors avant de passer dans le monde des pros.
Écoute, franchement, surtout les deux dernières années avec les juniors, j'avais quand même une équipe de haut niveau. Donc, avec des habitués, des joueurs qui étaient techniquement très, très forts. Et puis, on avait une façon de jouer. Puis, quand je suis arrivé avec les pros, il y a 6 de mes juniors qui sont montés cette année-là. Ça. Et puis, il y avait des joueurs qui étaient déjà en place que j'avais coaché en junior. Donc, j'avais plus de l'équipe. C'était peut-être ma première année, 12-13 joueurs que j'avais coachés en junior. Donc, j'ai changé des choses, mais pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses que je faisais en junior que j'ai gardées. Après ça, moi, je suis beaucoup essai-erreur. Des fois, j'essaie quelque chose. Même des fois, je suis pas convaincu que ça va marcher. Je le laissais quand même. Et puis, pour me rendre compte qu'effectivement, j'avais raison, ça, c'est sûr que ça marchera pas. Je fais beaucoup, surtout en début de saison. Et puis, pour essayer de trouver la meilleure façon, le meilleur système pour... mais il y a des choses que je fais en junior que j'applique encore, que j'applique encore avec les pros, puis ça se passe bien, ça se fait bien aussi.
Et ce passage junior professionnel, est-ce que c'est quelque chose dont tu rêvais ou t'ambitionnais depuis de longues années, ou ça s'est fait assez naturellement, ou tout d'un coup, bon, on sait qu'il y a eu un peu un changement de cap à Genève. Maintenant, ça se fait aussi peut-être plus souvent avec Gianni Nadi à Lugano, c'est quand même assez rare que le coach des juniors tout d'un coup se retrouve à la tête de la première équipe. Donc, est-ce que c'est, je ne veux pas dire que c'était calculé, mais est-ce que c'était un hasard total ou c'était quand même quelque chose qui...
Non, c'était un objectif, quand je suis revenu en 2010, c'était un objectif que j'avais, mais c'était un objectif à long terme. Parce que moi, quand j'ai quitté, il faut savoir que, bon, ça faisait une couple d'années, j'étais séparé, mais j'avais ma fille qui avait, quand je suis parti, elle avait à l'époque 8 ans. Et puis, quand je suis revenu, j'avais parlé avec Louis puis Chris, on s'était mis au clair comme le fait que j'étais 8 mois à Genève et 4 mois au Québec. Et puis, j'avais la pause de novembre et puis la pause de décembre, je descendais aussi à Québec. Comme ça, j'avais comme, avec mon ex-conjointe, une garde partagée, qu'on va dire. Là. Quand j'étais à Québec, j'avais 100% de ma fille. Moi, je m'étais toujours dit que ma priorité, c'était ma fille, dans le sens où que tant et aussi longtemps j'avais ces conditions-là avec les juniors élites, j'allais rester avec les juniors élites, la stabilité. Et puis, je m'étais donné un plan de 10 ans. Puis, finalement, l'opportunité est arrivée en 2019. Ma fille avait 17 ans, donc le timing était bon. Puis, je m'étais dit, bon, si jamais cette opportunité ne vient pas dû à mon âge, ça sera juste too bad, comme on dit. Puis, ça a toujours été un objectif, mais sur le long terme. Et puis, quand c'est arrivé, j'étais prêt. J'étais prêt à relever le défi.
D'un coup, du jour au lendemain, t'es apparu un peu dans la lumière. Forcément, en National League, il y a beaucoup plus d'attention médiatique que quand on est entraîneur des juniors. Tu t'es habitué tout d'un coup à devenir une personnalité du hockey suisse, ouais, un peu du jour au lendemain?
Bon, j'avais vécu ça, c'est la couverture médiatique au Québec pour les juniors, c'est quand même quelque chose de ça en ressemblait un peu à ce qui se passe ici, mais c'est quand même beaucoup plus que le junior en Suisse. Donc, j'étais déjà habitué d'être aux entrevues puis tout. Mais c'est pas quelque chose, mais je suis quelqu'un qui est quand même assez à l'aise par rapport à ça. Mais je suis quelqu'un de low profile dans le sens où je sais pas quelque chose qui m'attire ou donc je suis à ma place, mais quand que je suis très à l'aise de rencontrer les journalistes et faire ces choses-là, mais c'est pas quelque chose qui m'affecte.
On a parlé de... Enfin, tu as dit que tu voulais pas forcément revenir en détail sur ces années genevoises. Il y a quand même une année où vous allez jusqu'en finale, et puis après, quelques mois plus tard, où tu es remercié. Si tu devais juste nous dire une chose que tu as bien aimé pendant ces 2 ans, et puis peut-être un regret que tu as, c'est quoi que tu retiens de ces années à la tête de Genève Servette?
Écoute, j'ai adoré mon expérience. Je pense qu'on avait... quand je suis arrivé, là, je pense que les prédictions étaient 11e et puis que j'allais perdre mon boulot après 2 mois. Et puis, on a terminé, je pense, 4e, mais à deux points de la première position. Donc, on sans cesse, puis on avait beaucoup une équipe très jeune. Puis les vétérans, ils ont joué le jeu, ils ont aidé les jeunes. C'était une belle... on avait une belle chimie au niveau de l'équipe. Et puis c'était quelque chose qu'on a réussi à reproduire dans la deuxième année. On était encore là, pas vraiment les favoris, mais on s'est toujours battu. Et puis on s'est rendu en finale cette année-là. Tu sais, je veux dire, on en finale contre Jougle, on avait vraiment, vraiment joué un gros morceau. Et puis, on avait tout donné les deux premiers matchs. On a perdu, je pense, c'était le premier match en overtime, je crois, là, puis le deuxième par un goal. Et puis, au troisième, là, vraiment, là, ça a déboulé.
Au c'était au meilleur match. Des cinq matchs, hein, cette année-là.
C'était meilleur des trois. Oui, c'est vrai, c'était un best of five à l'époque. Mais ça a été une belle période. C'était très enrichissant pour moi. La deuxième année, on avait terminé, je pense, la finale en début du mois de mai, très tard à cause du COVID. Il y avait beaucoup de blessés. Le regret que j'avais, c'est que avec tous ces blessés-là qui étaient blessés à long terme, des joueurs importants, on n'a pas réussi à faire un camp d'entraînement adéquat. On n'avait pas de joueurs. Je me rappelle des matchs amicaux où Louis appelait des joueurs des équipes Magnus parce que le camp d'entraînement n'a pas commencé pour avoir des joueurs de la Ligue Magnus pour venir jouer nos matchs à nous, des matchs amicaux. Donc, c'est pas la meilleure préparation. Donc, on n'a jamais été capable de se mettre en branle, de commencer la saison. Donc, on sait que le début de saison est important. Donc, ça, c'était peut-être une déception.
Il s'est écoulé une année et demie, à peu près, entre ton départ de Genève et l'annonce de ton engagement à Fribourg. Qu'est-ce que tu en as profité pour faire? T'es retourné t'occuper un petit peu des camions, des transports au Québec? Ou
non. Donc, cette année-là, ça a été une année très, très difficile. Donc, d'avaler le congédiement. Par la suite, mon père est décédé 2 mois après, puis ma mère est décédée 3 mois après mon père. Donc, ça a été une année qui a été, personnellement, très, très difficile dont j'étais pas en forme pour faire un retour. Donc, j'ai pris mon temps. Donc, j'avais la possibilité de le faire, je l'ai fait. Et puis, donc, le timing de venir avec le Fribourg-Gotteron s'est fait au bon moment. Donc, j'ai eu le temps de faire plusieurs deuils. Et puis, là, maintenant, il faut comprendre, être entraîneur à ce niveau-là, c'est un beau métier, mais c'est un métier qui est très, très demandant. Physiquement et mentalement, surtout mentalement. Et puis, faut être à 100%. Si tu n'es pas à 100%, t'es mieux de passer ton tour.
Puis Fribourg est donc arrivé. Comment sont noués les premiers contacts? C'est toi qui as fait le premier pas? C'est Fribourg qui t'a appelé?
Écoute, ça s'est fait un peu naturellement. Savoir qui a fait le premier contact, ça, je me rappelle pas. Mais je pense que je connaissais pas Christian au prime abord.
Tu l'avais battu en playoff.
Ouais. On se connaissait, non. Mais tu sais, je veux dire, il y a toujours eu un contact visuel avant le match. Et puis, c'est une pointe de main, puis je voyais que le courant passait aussi, là. Et puis quand on s'est rencontrés, Christian a mis peut-être la possibilité qu'il pourrait avoir une ouverture, et puis moi j'ai dit bon, le timing est bon, on s'est assis, on a eu une discussion à savoir c'était quoi le rôle que je pourrais avoir au sein de l'équipe. Je voulais pas être assistant seulement pour placer les pucks dans les coins durant l'entraînement. Je voulais être impliqué. Et puis, Christian m'a donné cette possibilité-là. Donc, on s'est entendu avec Pavel également, qui fait quoi. Et puis, essayer d'avoir une bonne chimie, une bonne synergie entre nous pour qu'on soit capable de bien fonctionner.
Donc au mois de mars, j'imagine, ton téléphone sonne et puis t'entends à l'autre bout « Salut, c'est Christian ». C'est parti comme ça, ou bien il y a eu un intermédiaire?
Non, il n'y a pas eu d'intermédiaire. Ouais.
Et puis tu parles du rôle que vous avez défini. Alors on a bien compris que Pavel c'était plutôt la défense, toi plutôt l'attaque, mais comment vous fonctionnez un peu au quotidien, qui dirige les entraînements? Est-ce que vous répartissez aussi ça? Il y a de la vidéo, il y a des choses comme ça à mettre en place?
Bon, pour la vidéo, on fait chacun notre partie. Moi je fais mon côté offensif, Pavel va faire son côté défensif. On essaie de ne pas avoir de doublons, on se parle un peu pour ne pas répéter la même chose aussi. Après ça, il y a les vidéos d'avant-match où là, on va y aller par alternance. On n'a pas commencé comme ça au début, mais après là, maintenant, on est comme ça depuis à peu près un mois. Là. Chacun notre tour, on va faire la préparation d'avant-match avec la vidéo et puis même dans le vestiaire avant le match. Par la suite, c'est ça. Durant les matchs, Pavel va s'occuper des défenseurs, Christian s'occupe des avant, moi je suis au milieu. Je donne mes impressions entre les périodes, des fois des choses que j'ai remarquées, ou si j'ai des points à dire directement sur le banc aux joueurs, que ce soit défenseur ou avant, je vais le faire.
Ça peut arriver que ce soit toi aussi, juste avant le début du match, qui donne le dernier discours.
On va le faire, on appelle ça le pre-game talk, là. C'est soit Pavel, soit moi. Ça, c'est avant l'échauffement. Par la suite, après l'échauffement, juste avant le match, c'est toujours Christian qui va faire le speech.
On a une question d'un de nos auditeurs sur ton rôle. C'est Sersto77 qui demande si, après avoir été head coach, c'est pas un peu frustrant d'être seulement assistant dans une équipe de National League?
Non, c'est deux travails différents. C'est pas la même responsabilité, c'est pas le même discours, c'est pas la même relation avec les joueurs. Moi, ça fait partie de mon apprentissage. J'ai été très peu vraiment assistant. J'ai toujours été head coach, mais je vois pas ça d'un côté négatif. Au contraire, j'apprends encore là-dedans. Puis, je veux dire, toutes les expériences sont bonnes pour la suite.
Christian et Pavel ont à peu près 15 ans de moins que toi, ouais, 10-15 ans. Est-ce que des fois, dans la relation à trois que vous avez, tu as l'impression d'être un petit peu pas le papa, mais d'être un peu l'aîné par rapport à eux? Ils sont plus jeunes, ils ont moins d'expérience dans le coaching aussi que toi, qui est là depuis très longtemps. T'as.
Non, du tout. Là, on a une très bonne relation, les trois. Le discours va bien avec David aussi. Donc, non, tout se passe bien. On parle de hockey, donc comme j'ai dit, moi je peux s'adapter dû au fait que j'ai arrêté pendant 10 ans, donc mon discours est pas très très old school, je suis pas très très old school dans ma façon d'approcher les gens, dans ma façon de coacher, donc on s'entend très bien.
Tu sais t'adapter, comme tu l'as dit.
Ouais.
En début de saison, tu avais répondu à un journaliste présent autour de cette table, qui n'est pas moi, donc Pierre, que tu pensais que tu allais bien te plaire à Fribourg. C'est le cas?
Oui, c'est le cas. J'aime beaucoup Fribourg. Je commence à connaître un peu le coin. Je me promène beaucoup, donc pas autant que je voudrais, mais je commence à me plaire. Non, j'aime vraiment mon séjour présentement. Les gens sont sympathiques. Durant les matchs, on a une ambiance. Je veux dire, c'est une patinoire de hockey, c'est une ville de hockey. C'est plaisant de travailler dans ces conditions-là.
Il y a Julien Testa qui demande si la ville de Fribourg est mieux que celle de Genève malgré l'introduction du 30 km/h. Il a de l'humour.
Il a de l'humour.
Écoutez, c'est deux villes complètement différentes. J'ai beaucoup aimé Genève. J'ai été 18 ans là-bas, donc j'ai beaucoup d'amis. Je connais la ville comme le fond de ma poche. Fribourg est une ville beaucoup plus petite, mais qui a ses attraits aussi. Donc, moi, je me plais dans les deux villes. Je suis bien dans une grande ville, je suis bien dans une ville un peu plus petite. Donc, j'adore vraiment les deux endroits.
Puisqu'on est dans les comparaisons, je me demandais, voilà, si Genève et Fribourg sont deux clubs qui sont très proches ou pas dans l'organisation. Et puis peut-être quelque chose qu'il y a à Genève que tu ne retrouves pas à Fribourg qui te manque et quelque chose que tu es content d'avoir à Fribourg.
Non, il n'y a rien qui... moi, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique, donc il n'y a, rien qui que j'envie à Genève. Non, pour moi, la page est tournée. Maintenant, je suis à Fribourg. Ici, c'est une organisation qui est très professionnelle. Je veux dire, il y a beaucoup de monde autour de l'équipe, beaucoup plus qu'à Genève. Ça, c'est la première constatation. Les fans, on a des fans en or, je veux dire. C'est sûr que sont très volubiles dans le sens quand ils sont contents, tu le sais. Quand ils sont moins, tu le sais aussi.
T'as pas encore eu vraiment l'occasion de constater.
Non, il y a une dame qui m'a accosté suite au match de à peu près un mois et demi. Je sais pas si t'avoues que je l'avais compté, mais en tout cas, peu importe. Je marchais, puis il y a une dame qui vient me voir. Elle dit, monsieur Aymon, elle dit, le match d'hier, elle dit, c'était un peu brouillon. J'ai dit, on va essayer de
clarifier.
De faire des changements adéquats. Non, mais c'est ça qui me plaît. C'est une ville de hockey. Moi, j'habitais à Québec dans le temps des Nordiques. C'est des gens qui sont passionnés, puis tout ça. La patinoire, c'est magnifique. Les joueurs sont gâtés d'avoir des installations comme on a ici. Donc, c'est tout. Il y a beaucoup de positifs.
Je suis quand même obligé de poser la question de Romain Ediger, même si tu dis que tu n'es pas nostalgique, mais j'imagine que des choses de ton Québec natal doivent te manquer, ou bien il aimerait savoir ce qui te manque le plus du Québec.
Écoutez, moi, je suis un privilégié dans le sens que j'ai le meilleur des deux mondes. Donc, je retourne chez moi l'été, j'ai mes amis, je suis installé là-bas, donc je profite de tous les bons côtés du Québec, moins la neige, donc ça c'est un côté qui est très positif.
T'aimes pas la neige? Pas autant qu'un...
Un peu moins. Et puis j'adore la Suisse, donc je suis quelqu'un qui est privilégié de faire qu'est-ce que je fais. Moi je passe beaucoup de temps à mon travail, mais je dis tout le temps que je travaille pas, je m'amuse. Donc c'est un privilège de faire le métier que je fais, dans le pays que je fais, dans les conditions que je fais qui me permettent de rentrer chez moi, puis de voir tout mon monde. Donc c'est je suis vraiment chanceux.
Il y a des proches qui t'ont rejoint ici à Fribourg, ou bien pour l'instant t'es seul là, à Grange-Paco?
Non, je suis seul à Grange-Paco. Ma fille maintenant est âgée de 21 ans, donc elle est à l'université, elle demeure chez sa mère. Quand je reste à Québec, elle est avec moi. Et puis la bonne nouvelle, elle vient me visiter dans le temps de Noël, 2 semaines avec son copain, donc on va en profiter pour passer un bon temps des fêtes, aller faire du ski. J'avais pas le choix d'inviter le copain, parce que probablement ma fille serait pas venue. Un certain âge, le père est rendu deuxième. Là.
Tu vas l'inviter dans une station des Préalpes fribourgeoises ou à Zermatt? C'est pas le même budget quand même.
C'est pas le même budget, donc je le sais pas encore. Il faut que je regarde ça. Il faut que je fasse mes heures. Je suis un peu tard, là, mais il faut que je trouve quelque chose de sympa là, pour eux.
À Davos, quand il y a la Coupe Spengler.
On va essayer de sortir un peu du hockey là, pendant quelques temps.
Bon, on parle de Noël, on va parler de la suite ou des envies que tu as encore, juste pour terminer. Tu as des ambitions personnelles, des rêves encore dans ce milieu du hockey?
Ah, dans le milieu du hockey, c'est sûr. Je ne ferme jamais la porte d'un retour comme entraîneur-chef. J'ai toujours été entraîneur-chef, mais c'est pas pour l'instant, ça ne fait pas partie de mes priorités du tout. Je suis très bien à Fribourg. Je me plais beaucoup dans mes fonctions, mais on ne connaît pas l'avenir.
Il faudra quand même répondre à Selim Fedila, pardon, qui se demande si tu penses pouvoir être un jour le successeur de Christian Dubé.
Et attention, oh. Ouh là là.
c'est pas une question que je pourrais répondre. C'est pas non. J'ai beaucoup de respect pour Christian. Faut comprendre que c'est lui qui m'a ramené ça serait pas de Christian Dubé, je serais pas à Fribourg. Je ne sais pas si je serais en Ligue nationale présentement. Donc, comme j'ai dit, c'est un métier qui est difficile. Le respect des gens avec qui tu travailles, c'est très important pour moi. J'ai été élevé comme ça, donc je suis très bien dans qu'est-ce que je fais. Mon but, c'est d'aider le coaching staff, d'aider les joueurs, d'aider Fribourg-Gotteron d'avoir la meilleure équipe. C'est ça mon travail, puis c'est là-dessus que je focus à 100%.
Belle conclusion.
Magnifique. Point final. On rajoute rien d'autre.
C'est le point final qu'il
fallait. On te remercie juste quand même.
Oui, merci
chaleureusement,
beaucoup.
C'était une belle découverte. Ça fait plaisir d'avoir discuté avec toi.
Merci beaucoup.
Toujours intéressant de parler avec des passionnés.
On te invitera la saison prochaine si tu acceptes. Si tu as aimé l'expérience, tu pourras revenir.
C'est parfait.
Merci Pierre, merci Pat. À bientôt. On fera une petite pause sans doute la semaine prochaine, comme les joueurs de Gotteron. Pas de podcast, mais on se retrouvera dans 2 semaines.
À bientôt.
Bye bye.
C'était Point de vue avec Jérama. Depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.
Vous venez d'écouter Point de vue, le podcast de la liberté consacré à l'actualité de Fribourg-Gotteron. Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la liberté. À bientôt pour un nouvel épisode.